Table ovale sans ellipse, avec autour de Claude Devezin ce soir, Christian-Emmanuel Gros pour le Modem, Daniel Rozoy pour le Parti Radical de Gauche, Jean-Albert Bessière pour le Parti Communiste, Jean-François Théron pour le Nouveau Centre, Jean-Louis Roussel pour le Parti de Gauche, Mehdi Smaïn pour l'UMP et Martin Voroux pour le Parti Socialiste. Et ce soir, on est presque aussi nombreux qu'à l'Assemblée Nationale, c'est un grand soir, et on a le même sujet. C'est pourquoi d'ailleurs j'espère que ça se passera sans ellipse, parce que entre un papa, une maman, mais sans qu'on nous dise vraiment ce qu'on pense du mariage, et un mariage pour tous, j'en ai un peu assez des mots cache-sexe, et j'aimerais bien qu'on sache de quoi on parle. Alors pour savoir de quoi on parle, d'ailleurs, on pourrait peut-être se demander pourquoi on se marie, parce que, après tout, il y a toute une catégorie de formes de vie, hein. On peut s'abstenir, on peut être solitaire, célibataire nomade, couple libre, concubin notoire, ou déclaré, ou paxé, enfin bref, on a l'embarras du choix. Pourquoi se marier et qu'est-ce que c'est que le mariage, à quoi ça sert? Et est-ce que, d'ailleurs, c'est une institution tellement appréciée? Parce que je crois me souvenir qu'à gauche de la gauche, le mariage, c'est pas absolument excellemment vu. Qu'en pensez-vous, monsieur Roussel? Pour le parti de gauche, justement.
Oui, bah, on parlait de la gauche de la gauche. Il est vrai que certains estiment que c'est une institution qui est un petit peu dépassée, voire bourgeoise dans certains propos. Et en fait, la question ne se pose pas dans ces termes aujourd'hui, puisque vient de s'ouvrir au Parlement le fait de permettre une égalité de droit, notamment en direction des couples homosexuels, d'avoir droit à se marier. Donc, et le droit de pas se marier, de fait, puisque si la loi est adoptée, même dans leur situation, ils pourront très bien, indifféremment, ne pas accepter le mariage. Donc, le débat se pose dans ces termes, et notamment à gauche. C'est une égalité de droit pour permettre effectivement de régler des questions juridiques et d'avoir, comme les couples hétérosexuels, les possibilités en termes d'adoption, mais en même temps de filiation, voire de succession, de régler des situations de fait qui aujourd'hui amènent des familles avec des enfants, des familles homoparentales avec des enfants, de ne pas avoir les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Donc le débat, il est plutôt là. Et si à la gauche de la gauche, on se bat pour ce projet de loi, c'est surtout pour l'égalité de droit et en même temps pour lutter contre cette discrimination qui conduit malheureusement à stigmatiser des gens qui, pour des questions d'identité ou d'orientation sexuelle, sont discriminés au regard de la loi de la République.
Alors j'ai une réponse sur les motivations politiques. Mais je n'ai pas de réponse sur la motivation sociétale, je dirais. Qu'est-ce que ça apporte? En quoi on va plaire ou déplaire à un certain nombre de gens? Et là, je vais me tourner vers ceux qui sont les initiateurs de la loi, hein. Encore que celui qui la promulguera a toujours refusé de se marier, lui. Mais enfin, je vais demander à monsieur Voroux de nous dire quelles sont les implications sociétales de ce projet de loi.
Alors, au niveau des implications sociétales, d'abord, je tiens à faire remarquer tout simplement que la gauche a fait avancer hein, le droit social donc dans ce pays. Je me réfère donc en 1982 où, grâce au feu Mitterrand, on a réussi donc à dépénaliser donc l'homosexualité qui n'était plus considérée comme une maladie. Et donc, pour moi, pourquoi se marie-t-on? Je pense qu'il y a essentiellement quatre raisons. La première, c'est une manière de sacrer l'amour. C'est une manière de solennaliser une relation. La deuxième raison, c'est un biais d'octroyer des droits et des devoirs dans le couple. La troisième raison, c'est essentiellement pour la protection des enfants. Donc, Monsieur Roussel rappelait tout à l'heure qu'on a des enfants qui étaient dans une situation totalement inégale et l'avancée de cette loi, justement, permettra de rendre toute cette situation normale. Et la quatrième raison, donc, c'est par rapport à la filiation. Donc, ça permet justement d'apporter plus d'égalité au niveau des familles.
On reviendra sur les enfants et sur la filiation, hein. Mais maintenant, je voudrais une réponse, cette fois, de l'UMP, de M. Smaïn. On nous a dit ce que ça pouvait apporter, à qui ça ferait plaisir et comment ça ferait plaisir et pourquoi, après tout, pourquoi se priver de faire plaisir aux gens. Et dans les détracteurs, encore que l'UMP est partagé.
Il y a une liberté de conscience qui existe sur le principe du mariage à l'UMP. C'est plus sur les conséquences du mariage où on reste unanime, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, où là, l'UMP ne fera pas de concession, mais sur le principe de l'union, moi, à titre personnel, je ne suis pas opposé au fait que deux personnes homosexuelles souhaitent formaliser leur union, et si ça doit se faire par le mariage ou si ça doit se faire par le PACS amélioré, il faudra en débattre, mais le problème, c'est que le débat aujourd'hui n'existe pas. Il existe une pression auprès des élus socialistes, notamment, qui leur permet pas finalement d'exprimer leur opinion, puisque François Hollande souhaite faire passer cette mesure en force. Et c'est un peu dommage que, même si j'estime que le débat aujourd'hui devrait être sur des réformes structurelles et non pas sur des réformes sociétales, c'est quand même dommage que le débat n'existe pas aujourd'hui.
Alors la position du leader du Modem, j'avais cru comprendre qu'il était plutôt favorable. Est-ce qu'on peut dire ça de l'ensemble du Modem et de M. Gros?
Alors François Bayrou a toujours noté qu'il y a une inégalité de fait entre les paxés et les mariés qui est préjudiciable pour l'héritier, et, enfin l'héritier éventuel, et puis également au niveau d'un enfant lorsque ceux-ci ont adopté. Et qu'on considère que le pacte a été mal vu. Bien que les socialistes soient capables d'initier des progrès, là ils se sont quand même pris les pieds dans le tapis. Et effectivement, il y a lieu de remédier à ça. Parce que, non pas parce qu'il faut le promouvoir, mais parce qu'il faut constater qu'il y a en France à peu près près de 30 000 enfants qui vivent avec des couples homosexuels, qui ont été adoptés par un seul des parents, qui est le seul à avoir des droits sur eux. Et qu'en cas d'accident de la vie, peut arriver, effectivement, l'enfant et le conjoint restant risquent de ne pas être protégés. Donc il fallait y remédier.
Si l'enfant est adoptable.
Oui, l'enfant, ah bah oui, mais il est, le lien avec le nouvel adopteur, disons, ne va pas être forcément facile. Et, donc il faut remédier à cela. Pour autant, c'est un problème sociétal qui n'est pas neutre, parce que vous avez parlé du mariage, c'est un lien fort. Toutes les sociétés, depuis le début de l'humanité, ont vécu suivant des structures dans lesquelles le mariage est assez central. Pour beaucoup de gens, ça fonde quelque chose d'important. Claude Lévi-Strauss le notait, dans toutes les sociétés, le mariage entre un homme et une femme, dans le but de fonder durablement une famille et d'avoir des enfants, est assez marqué. Donc, il est évident qu'on vit dans un pays dans lequel il y a beaucoup de gens âgés, pour lesquels ce que vous appelez un progrès, pour eux, ne leur paraît pas forcément. Deuxièmement, on assimile beaucoup de gens venant de cultures différentes, qui viennent notamment d'Afrique et souvent imprégnés d'islam, qui condamnent l'homosexualité. Donc, c'est difficile pour des nouveaux arrivants dans nos cultures de voir des bouleversements comme cela. Donc, il aurait fallu un débat serein, une étude, disons, dépolitisée, qui soit telle qu'on puisse, les uns et les autres, regarder en quoi il était légitime de favoriser l'union de deux personnes de même sexe pour lesquelles c'est la solution d'amour, d'affection qu'ils ont trouvée, et également les mettre au même niveau donc fiscal et successoral. Donc ça a été mal fait, et c'est effectivement assez baroque que l'on voit aujourd'hui ceux qui ont été les pourfendeurs du mariage, tradition bourgeoise, condamnable et tout cela, aujourd'hui, sans faire les défenseurs acharnés, dans un cadre bien précis qui intéresse très peu de gens. Parce qu'on ne doit pas marginaliser ces gens-là parce qu'ils sont moins nombreux, mais en fait, les homosexuels qui vont se marier, ceux qui sont paxés, représentent à peu près 10% des paxes. Et je crois même pas. Et donc, pour le mariage, c'est vrai que le mariage a diminué d'une manière générale. Beaucoup de gens vivent hors mariage, mais les homosexuels qu'ils réclament, bon, certains rigolent en disant il n'y a que les homosexuels et les curés qui veulent se marier aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'il faut, négliger le besoin qu'il y a, mais on crée un combat au lieu de faire un débat serein. Voilà. Et c'est ce que critique François Bayrou.
Monsieur Théron, au nouveau centre, on a une idée de pour, du contre.
Je dirais qu'on regarde l'égalité des droits. On peut très bien entendre aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la société, qu'il y a peut-être un pas de plus à faire concernant ce problème du mariage. Ceci étant, au nouveau centre et à l'UDI, nous sommes contre le mariage pour les homosexuels, considérant qu'il faut appeler un chat, et que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, ce qui ne serait pas le cas quand il s'agit de couples homosexuels. Donc nous serions pour un contrat d'union civile, par exemple, ou une terminologie à définir, qui apporterait exactement les mêmes droits aux homosexuels, qui réglerait ces problèmes de successoraux, d'enfants, d'adoption, etc., et qui, pour autant, ne reviendrait pas sur le fait que le mariage, je me répète, est l'union d'un homme et d'une femme.
C'est une question de vocabulaire.
C'est une question de vocabulaire, une question de principe, mais sachant qu'il y a un pas à faire aujourd'hui dans la société pour effectivement reconnaître, c'est pas, si vous voulez, une opposition par rapport aux homosexuels ou au désir de ces gens-là de vouloir vivre comme les autres. On le comprend, on l'entend, mais il y a une formule à trouver qui soit différente du mariage, qui existe et qui représente quelque chose.
Monsieur Rozoy.
Je vais revenir un peu à ce que vous demandiez, Monsieur Renaud de Vezin. Monsieur, pardon. Claude de Vezin, excusez-moi.
C'est pourquoi, peu d'aquarelle.
Oui, pourquoi se marie-t-on? Moi, je dirais qu'il y a déjà deux niveaux dans le mariage. Il y a le mariage religieux et le mariage civil. Bon, vous savez que nous, au Parti Radical, on est très branchés sur la laïcité. Donc, le mariage religieux, je le laisse aux gens qui veulent faire le mariage religieux, c'est leur problème. Hein. Par contre, dans le mariage civil, c'est l'union de deux êtres qui s'aiment, que ce soit des hommes, des femmes, entre eux ou mixtes. Moi, peu importe, au PRG, on est pour le mariage pour tous, sans discrimination aucune.
Eh bien, le dernier que j'ai pas interrogé, c'est quelqu'un de la gauche c'est M. Bessière. Alors, on a déjà eu une réponse sur l'aspect bourgeois du mariage. C'était
non, je partage ce qu'ont dit Martin, Jean-Louis et Daniel. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je trouve, vous disiez que ça ne représentait pas beaucoup de monde, en définitive, qui va être touché.
Une seule injustice, ça compte.
Ouais. Vous disiez qu'il n'y avait pas de débat. Je crois que ce qui mène bien le débat aujourd'hui dans le champ, sur le terrain, y compris l'Église a pris parti. Je veux dire, il faut parler clairement. En Espagne, je crois, et en Italie, ça existe déjà. Ça n'a pas fait forcément... Non, c'est pas tout à fait ça.
Espagne.
En Espagne.
Portugal.
Le Portugal, voilà. Je trouve qu'on exacerbe ce débat, volontairement, c'est purement politique. Sur d'autres, il y en a aussi, mais je crois que c'est très politique. Qui fait qu'aujourd'hui, on peut y compris ça le reprocher peut-être aux gouvernants. Pendant qu'on parle de ça, de la guerre au Mali, etc., il y a tout un tas de sujets qui, me semble-t-il, sont plus graves pour notre République, pour notre nation, pour ceux qui la composent, les riches et les pauvres. Il me semble qu'il y a des sujets beaucoup plus importants qui mériteraient de grands débats sur réindustrialiser la France, sur etc. etc. Et donc, je comprends que c'est un débat important, mais n'y donne pas-t-on plus d'importance qu'il faudrait? Moi, je pense que si, qu'on n'y donne pas n'y donne trop d'importance, c'est que, bien sûr, ça permet de chatouiller les sensibilités de chacun. Vous savez, j'ai des enfants qui sont mariés, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui des enfants qui sont baptisés, d'autres qui ne le sont pas. Ça ne me pose pas un problème majeur. Moi, je suis marié, je suis passé à l'église. Il y a rien. Pourquoi j'y suis passé? Parce que, voilà. Et demain, si j'étais homosexuel, peut-être que je voudrais me marier, comme peut-être que je ne voudrais pas me marier.
Vous ne jurez de rien.
Voilà. Je veux dire, il ne faut pas... C'est donner les moyens, c'est ce que disait Jean-Louis, à chacun de pouvoir faire ce qu'il peut faire et répondre aussi au vrai problème qui est administratif, là, c'est vrai, mais qui pose un vrai problème. Quoi. Voilà. Et qu'aujourd'hui, entre des gens intelligents comme nous sommes, nous devons être capables de dépasser ce genre de choses. Voilà.
Alors, l'autre crainte, ça a été la... la détérioration de l'état civil des gens mariés hétérosexuels. Et là, on en est... Je vais demander déjà à l'UMP, parce que je sais que c'est parmi les craintes qui s'étaient exprimées, et puis je sais aussi qu'il y a 5000 amendements. Alors, dans 5000 amendements, il doit y avoir des choses, quand même. Pour quelqu'un qui dit, bah oui, au fond, on n'est pas vraiment contre. 5000 amendements, pour des gens qui ne sont pas... Enfin, ce sont des amendements, c'est peut-être pas de l'opposition, mais... Alors, déjà, au niveau de l'état civil, est-ce que vous êtes rassénéré? Est-ce que vous proposez des solutions?
Sur l'état civil, vous voulez dire sur le fait qu'un conjoint puisse porter le nom de l'autre, par exemple?
Parent 1, parent 2.
Non, c'est terminé. Hein. Ce n'est plus dans, le projet de loi, hein, très clairement.
Monsieur Vauroux, pour le Parti Socialiste, vous me confirmez que ça, c'est terminé?
C'est terminé, oui. Ce n'est pas dans le projet de loi. Le projet de loi simplement permet donc au couple, que ce soit un couple homme ou femme, ou homme et homme, de pouvoir se marier et se faisant octroyer des droits aux enfants.
Mais disons que c'est un projet qui va arriver par étapes. On commence à nous vendre le mariage et c'est les conséquences qui vont arriver derrière qui sont plus graves. J'ai envie de dire.
Pas du tout.
Le mariage en soi, comme on l'a expliqué, je pense qu'on est tous unanimes sur ce sujet-là. Si deux hommes ou deux femmes s'aiment, à la limite, qu'on les laisse s'unir. Ça pose pas de difficulté qu'on l'appelle mariage, Pax ou qu'on y trouve un autre nom.
C'est ça déjà, comme ça.
Voilà. Oui, mais le problème, c'est que si on commence à ouvrir
avec
la porte à
l'UMP, ce qui est surprenant avec vous, c'est que vous êtes d'accord avec la loi. Je ne vois pas pourquoi vous
manifestez. Parce que ce sont les conséquences.
Ou vous mettez du côté de l'Église, tout simplement. Si on
je
est pour
pas du côté de l'Église, je dis simplement
si
que les conséquences.
L'idée, je ne vois pas pourquoi, comme disait tout à l'heure notre ami, pourquoi systématiquement se mettre en opposition pour une loi qui va engendrer une avancée importante.
Oui, si les conséquences doivent être dommageables pour vous, pour nous, les conséquences, c'est l'égalité de droit. En fait,
je suis d'accord sur le principe de l'égalité de droit.
Et qu'on soit contre dans ces cas-là.
Je suis pour l'égalité des droits. Mais sur les conséquences de filiation, ça peut poser un certain nombre de problèmes, notamment sur la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui.
C'est notre affaire qui découlera de notre projet de loi.
Oui, mais
qui en découlera. Mais sur lequel on peut parler.
Qui sera sur la loi de la famille.
Voilà, ça fait partie des propositions de loi pour plus tard, au mois de mars.
Alors, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard, mais en attendant, ça inquiète, moins qu'on puisse dire. Ça inquiète, je me suis plongé sur la loi actuelle. Et j'ai découvert, je dois dire avec stupéfaction, bon, je ne suis pas un juriste, donc je ne connaissais pas par cœur, mais j'ai découvert que depuis 2011, président, c'était qui déjà en 2011 c'était Sarkozy. Sarkozy. Donc avec une majorité UMP à l'Assemblée nationale. Donc en 2011, on a autorisé le don de gamètes et le don d'embryons. À partir de là.
Monsieur Sarkozy, vous l'avez plus loin, il voulait la faire, cette loi. Il a été. Si, j'ai entendu ça à la radio tout à l'heure.
Oui, l'ancien président de la République, évidemment, s'était engagé, notamment en 2008, à faire avancer notamment cette problématique de droit des couples homosexuels.
J'apprécie que la gauche de la gauche
soutienne Sarkozy.
Nous donne la vie de M. Sarkozy.
Non, bien sûr.
Qui était un spécialiste du mariage, il s'est marié trois fois, alors il connaît.
L'égalité de droit.
Alors, sur la procréation médicalement assistée, quels sont maintenant, compte tenu de ce que je viens de dire, depuis 2011, quelles sont quelles dernières réserves l'UMP entend émettre sur la procréation médicalement assistée?
Déjà, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne connaissent pas ce terme-là, procréation médicalement assistée, c'est une solution médicale qui permet d'apporter, qui permet d'apporter une solution à un problème médical qui est l'infertilité. Aujourd'hui, si on décide
de faire... S'il n'y a pas de femme dans le couple, ça n'est pas applicable.
S'il n'y a pas de femme dans le couple...
On est à l'actuel de l'avancée de la science.
Peut-être que demain, ça sera possible. On ne sait pas de quoi demain sera fait, que deux hommes puissent enfanter. Enfin, pour l'instant, on n'y est pas. Le fait est que si demain, on accorde la procréation médicalement assistée, ça posera un réel problème de discrimination dans le couple homosexuel entre deux femmes et deux hommes, puisque les deux hommes ne pourront pas, en tout état de cause, accéder à cette mesure-là. Donc, la solution pour régler ce problème-là sera la gestation pour autrui. Et en France, vous parliez d'état de droit tout à l'heure, en France, il est interdit c'est l'indisponibilité du corps humain et la non-marchandisation du corps. Donc c'est une règle précise en France et voilà.
Nous sommes d'accord là-dessus. Simplement, d'abord, j'estime qu'il y a eu un débat qui continue aujourd'hui avec la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale. Il y a eu débat pendant la campagne présidentielle et législative que l'ensemble des programmes, notamment des candidats de gauche, portent porter ces mesures-là. Donc les Français le 6 mai ont validé en élisant le président de la République, notamment sur ce projet-là, l'assentiment donc une majorité de Français. Donc je pense que les Français ont quelque part tranché cette question favorablement. Donc
il y a eu débat. On parlait de la PMA, hein, on était venu à la PMA.
Je parle de ce qu'il y avait dans le contenu du programme du président Hollande, du candidat Hollande à l'époque, et président de la République. Dedans, il n'y a jamais été question de la gestation pour autrui. Je comprends bien qu'on le mette sur le débat comme évidemment un argument contre, mais il n'a pas été posé tel quel comme comme le choix fait par le président Hollande. Alors après, ça ouvre effectivement la question de l'égalité au bout du bout. Mais je crois que la gestation pour autrui n'est pas dans l'attente, notamment des militants de gauche. On le désire pas en tant que tel. La procréation médicalement assistée, on le conçoit pour les couples de femmes, effectivement. Et c'est ça qu'il faut attendre avec cette mesure de PMA prochainement dans la prochaine loi sur la famille en mars.
Est-ce que le comité éthique n'est pas consulté là-dessus ?
Ce serait une loi bioéthique.
Au jour d'aujourd'hui, la procréation médicalement assistée est encadrée quand même par une agence de biochimie, une agence officielle, un organisme. Et effectivement, elle est dans une mesure médicale en faveur des femmes et des hommes qui ne peuvent pas, pour question d'infertilité, ne peuvent pas procréer en tant que tel. Mais sur cette question-là, il n'a jamais été question, pour les valeurs qui ont été citées par M. Mehdi Ismail, effectivement, pas question d'ouvrir la possibilité de la marchandisation des corps. C'est une...
Mais si c'est gratuit, si c'est généreux...
Non, là-dessus, non, parce qu'après, effectivement, des questions éthiques peuvent s'ouvrir. Non, je crois qu'il n'y a personne qui va jusque-là dans la mesure, qu'on soit clair. Mais ça existe dans d'autres pays, pour des raisons de rémunération ou pas, que ce soit le Brésil, le Canada, Israël, même l'Iran.
Ça pose quand même quelques problèmes
même
de dignité pour la femme et quelques problèmes pour l'enfant.
Absolument.
Mais ça créera quand même une discrimination entre le couple homosexuel homme et femme, si on va au bout de la chose. Puisque la femme pourra et l'homme ne pourra pas.
Mais on attend de l'UMP une solution alors.
Et l'UMP, quand elle était au pouvoir, apportait des solutions, mais c'est maintenant à la gauche d'en apporter.
Non, l'UMP, une majorité de droite pendant plus de 10 ans en France, qui voulait faire avancer sur soi-disant certaines causes, notamment sur les problèmes de droit juridique des couples homosexuels, n'a rien fait. Donc c'est bien gentil aujourd'hui de vouloir faire, de nouveau faire à gauche des procès.
Il y a le PACS qui a été créé en tout cas.
Ah oui, mais le PACS, on peut se rappeler les débats de l'époque.
Ça n'a pas empêché de le faire promulguer au bout du bout.
Monsieur Rowe.
Moi, je voudrais tordre le cou à ce qu'on entend tout du long du truc. C'était la 31e proposition du président Mitterrand. Alors, la 31e.
François Hollande.
Mais c'est pareil que les 101 propositions de Mitterrand. Les gens qui ont voté Hollande, ils n'ont pas voté en regardant, surtout en toute petite ligne, cette proposition. S'il avait accompli les 30 premières à la limite, on pourrait dire, voilà, nous passons à la 31e, on va regarder. Mais c'est écrit en ligne, en caractère, comme dans les contrats d'assurance, vous savez. Les gens, ils ont voté pour François Hollande, d'abord pour virer l'autre. Il faut vous dire ça.
Non, je ne suis pas du tout de votre avis.
Non, mais avant toute chose. Alors, il y en a certains, effectivement. La communauté gay. Voilà,
je ne suis pas de cet avis, parce que cette proposition peut se lire en gros, puisque il y en a que 60, et ça faisait partie du 31e proposition. Donc, il n'y en avait pas pléthore de propositions, et c'était une promesse faite par le président Hollande, et je ne vois pas pourquoi ça étonne le MoDem ou l'UMP qu'on puisse, pour une fois, qu'un président puisse tenir ses promesses. C'est peut-être ce qui gêne l'UMP par rapport à Sarkozy, Sarkozy qui avait fait pas mal de propositions qui n'ont jamais été tenues.
Vous ne nous mélangez
je
pas.
Je ne le rappelle même non, pas.
Vous ne
les
nous
600
mélangez
milliards
pas.
De dette qu'on a su mettre
entre
en place.
Les 60 propositions de François Hollande et les 936 réformes de Nicolas Sarkozy, il n'y a quand même pas que François Hollande ne franchira pas.
On est d'accord que les réformes de Sarkozy ont été toutes dans le sens du patronat. Donc il a fait des cadeaux essentiellement à ses amis.
C'est vrai que le RSA, c'est un cadeau pour les riches. C'est un très bon exemple.
Bon, on a l'exemple du bouclier fiscal.
Et des heures supplémentaires aussi.
Est-ce qu'il est possible de revenir moi, je disais simplement que cette proposition, elle est importante. Et depuis 2007, d'ailleurs, à l'élection présidentielle précédente, François Bayrou soutenait la possibilité d'une union pour les homosexuels et d'une filiation pour les enfants de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas mélanger UMP et le MoDem. Mais non, je veux simplement dire que c'est important et n'y aurait-il qu'une seule injustice qui ne frappe qu'une seule personne, il faut la résoudre. Or là, il y avait une injustice et il faut la résoudre. Donc, c'est simplement qu'on ne nous dise pas que c'est à cause de ça que les Français ont voté pour François Hollande. Voilà. Moi, personnellement, je ne regrette pas d'avoir voté François Hollande, mais ce n'est pas à cause de ce qu'on voit aujourd'hui.
Sur la procréation médicalement assistée, quels sont les obstacles, puisque ça ne serait pas dans la loi actuelle, encore je ne sais pas ce qu'il y a dans les 5000 amendements de l'UMP, après tout.
Je ne les ai pas lus en détail.
Il y a tout pour faire obstruction, vous n'appelez pas.
Ce 1139 amendements, c'est précisément,
ça sera donc
dans
pas,
de l'extrême droite. Hein.
Ça ne sera donc pas dans la loi sur le mariage homosexuel, enlevant les mots. Appelons les choses par leur nom. Mais on nous dit que ça va être, pour le coup d'après, dans une loi sur la famille, etc. Quels sont, d'après vous, moi, je voudrais vous entendre sur les limites qui, d'après vous, représentants de partis politiques, doivent se poser à la procréation médicalement assistée. Monsieur Théron.
Mais il a dit tout à l'heure, il y a quand même une inégalité pour les couples homosexuels et les couples lesbiens. Qui ne sera pas réglé dans ce cas-là. En plus, bon...
Je vous sens très mari, le nouveau centre et l'UMP, que l'égalité ne soit pas respectée.
C'est quand même une des raisons de cette loi aujourd'hui. C'est de régler un problème d'inégalité. Ceci étant dit, la procréation médicalement assistée, elle n'était voulue et autorisée que dans des cas thérapeutiques. Quand on est dans le cas de couple homosexuel ou lesbien, la clause thérapeutique ne peut plus être mise en avant. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un fait un peu rédhibitoire. Alors bon, on a dit que ça serait pas dans la loi actuelle. Je rappelle et j'ai lu que des députés souhaitaient introduire, et même le président Hollande a dit que les députés dans leur débat pouvaient rajouter ce point-là dans le.
Ça, c'est constant,
dans la loi. Je vous vois approuver.
Je sais pas si on ira jusque là, mais enfin bon, c'est pas.
Mais pourquoi pas.
Non, mais c'est un peu un faux problème parce que la PMA. On peut la faire au black, comme disait tout à l'heure Jean-Albert.
Mais c'est pas parce qu'on peut la faire au black qu'on va la légaliser.
La PMA, ça me paraît difficile. La gestation pour autrui, c'est une autre histoire. La procréation médicalement assistée, c'est pas évident.
Non, mais je pense que dans ces cas-là, même dans les groupes homosexuels, à part quelques groupes extrémistes, comme il y a toujours des extrémistes, que ce soit à gauche, à droite, ou même chez les homosexuels, il y en a certains qui sont partisans peut-être de la GPA, justement, après. Mais franchement, la majorité des homosexuels ne sont pas pour la location de ventre d'une
autre. Mais
sur la procréation médicalement assistée, à mon avis, il n'y a aucun problème, à mon avis.
Ce qui ne serait pas possible de se poser une question, c'est que aujourd'hui, on parle du droit à l'enfant. Existe-t-il un droit à l'enfant? Est-ce que ce n'est pas l'enfant qui a des droits, plutôt que des adultes qui se disent « moi, j'ai droit à l'enfant ».
Oui, mais ça, c'est un peu comme c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule, on sait jamais.
C'est pas pareil. C'est une question de fond au niveau philosophique.
Les droits de l'enfant doivent passer avant le droit à l'enfant. Ce n'est pas le désir de certains qui doit prévaloir sur les droits de l'enfant. C'est un droit, notamment, d'avoir un père et une mère.
Mais c'est dit, un enfant adopté par des homosexuels risque souvent d'être mieux élevé parce qu'ils appartiennent à des milieux sociaux professionnels relativement aisés, parce qu'ils appartiennent à des catégories également favorisées en général. Et donc, souvent, on ne voit pas d'enfants dans les couples homosexuels qui soient plus mal élevés. Il y a chez les hétéros, on a suffisamment
Moi, je ne vois pas pourquoi le droit à l'enfant entre en ligne de compte, parce qu'à partir du moment où les gens s'aiment et qu'ils élèvent correctement leur enfant, que ce soit des homos,
des
hétéros, il n'y a aucun problème. Il y a tellement de couples qui se sont mariés avec les sacrements, la mairie et tous les Saint-Frusquin qui divorcent un an après, et les parents ne voient plus les enfants, donc je ne vois vraiment pas où est le problème, franchement.
Je ne sépare pas vis-à-vis des homosexuels par rapport aux hétérosexuels. C'est-à-dire que tout se passe normalement. C'est l'expression droit à l'enfant que je trouve choquante. Voilà, c'est ça.
Monsieur, sur la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes.
Voilà, je peux vous donner la teneur d'ailleurs hein, du futur projet de loi sur la PMA.
Tant qu'il y a bien un futur voilà, projet.
Oui, oui, on tiendra nos promesses, hein, ce qui n'a pas été le cas de la précédente présidence. Donc, la PMA, donc c'est un droit ouvert aux femmes sans condition de couple. Hein. Ça va être la teneur de la loi ou d'infertilité. Donc,
sans condition de couple, ça veut dire qu'une célibataire
aura le droit de pouvoir bénéficier de la PMA.
Mais dans les faits, c'est déjà le cas.
Oui.
Donc, il reste juste à légiférer pour donner un cadre là-dessus et quelques.
Que des célibataires. Et des enfants, oui, ça, c'est... Oui,
avec la PMA,
la c'est déjà le cas. Mais en procréation médicalement assistée...
C'est déjà le cas, puisque vous savez qu'un bon nombre de femmes vont soit en Belgique, soit en Espagne, pour pouvoir procéder de la chose. Donc, à mon avis, il faut légiférer pour donner un cadre à tout ça, et notamment régulariser, et notamment ces enfants issus de cette procréation-là. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de légiférer sur la PMA. On aurait pu le faire dans le cadre de cette loi, j'espère qu'on le fera dans la prochaine. Mais évidemment, les limites qui seront posées, c'est évidemment permettre la PMA dans le cadre, évidemment, de couples de femmes. Bon, après, peut-être qu'effectivement, la question de l'égalité sur le droit à l'enfant, on l'appelle comme on veut.
On vient de dire sans condition de couple. Hein,
oui, mais bien sûr, parce qu'il faut régulariser les situations de fait et le permettre. De toute façon, on sait qu'en France, il y a 22 000 PMA qui sont... il y a 22 000 enfants qui sont issus de PMA sur 129 000 inséminations. Bon, et plus, évidemment, les pratiques qui sont faites en termes de procréation médicalement assistée... en Belgique ou en Espagne. Donc il faut légiférer pour donner un cadre, et notamment pour ces enfants issus de cette pratique.
Ce qui me gêne un peu dans les propos de M. Roussel, c'est de dire que, puisque certaines personnes le font en dehors de la loi, il faut donner un cadre légal à ça. Et de la même manière, certains vont se droguer à Amsterdam, ça ne veut pas dire qu'il faut créer des salles de shoot
non,
en
mais
France.
Monsieur Smaïn, il y a des enfants qui sont nés de cette pratique-là, et ils habitent sur le sol français, il faut leur donner aussi un cadre. Tout simplement.
Oui, mais ça ne veut pas dire faire des avancées aussi larges sur la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui.
Mais je l'ai dit, il y a un organisme
pour
en France officiel qui s'appelle l'Agence de la biochimie qui encadre tout ça. Et il faudra forcément que ça soit encadré de la même manière, avec des règles plus logiques pour donner de statut de droit et régulariser les situations. Donc c'est une nécessité.
C'est la même chose que pour l'avortement il y a quelques années. Les gens allaient aussi à l'étranger. Maintenant, c'est réglementé en France, donc c'est pas une excuse.
Alors, avec les explications que vous nous donnez, j'observe qu'on a pas beaucoup rebondi sur le propos de M. Smaïn sur les droits de l'enfant, mais avec les explications que vous nous donnez, effectivement, je n'aurais pas forcément tenu ce propos-là avant de vous entendre, hein, mais la gestation pour autrui, on la voit se profiler à l'horizon, puisque c'est la régularisation d'états de fait qui se passent déjà à l'étranger. Bon, et si on parle de la gestation pour autrui, là, je voudrais vous entendre sur le respect des femmes et sur les droits de l'enfant. Monsieur Roussel.
Non, mais moi, je ne suis pas favorable à la gestation pour autrui, pour les raisons qu'on a indiquées dans le débat. Ça me paraît logique. Donc, en France, ça doit être interdit. Par contre, effectivement, on peut se poser la question au bout de cette situation vis-à-vis de pratiques qui auraient été faites à l'étranger. De même qu'il va rester des incertitudes hein, sur la PMA, à partir du moment où la pratique s'est faite en dehors du territoire, ainsi de suite. Il reste effectivement des zones d'ombre sur lesquelles il faudra à un moment donné se pencher pour que la chose soit claire. Mais non, la gestation pour autrui...
Moi, je ne trouve pas clair, là. D'habitude, vous l'êtes en plus, monsieur Roussel. Donc, pour autrui.
Je suis contre la gestation pour autrui, tout simplement.
C'est aussi la position du Parti Socialiste, d'ailleurs, hein, sur la gestation
pour autrui.
C'est
la position du Front de Gauche,
ouais, nous, aussi,
des partis de gauche et du Parti Communiste.
Alors, vous êtes contre, pourquoi
Comme on disait au début, c'est la marchandisation du corps humain, justement.
Mais l'UMP a intérêt à tout mélanger. Pour parler simple, comme ça, peut-être on se fera comprendre. De tout mélanger, de la PMA, la gestation pour autrui, et de
Monsieur Bessière, quand vous êtes marié, dans quel but de créer une famille? Vous parliez tout à l'heure du fait que vous étiez marié.
Vous avez eu des enfants?
Moi, je me suis marié parce que j'aimais ma femme.
Bon, mais très bien. C'était dans le but aussi d'avoir des
enfants. Parce que je voulais se marier en plus.
Bon, mais très bien. Fallait voilà. Lui faire plaisir. C'est pas le problème. Plaisir. Le fait est que vous avez des enfants avec.
Si et demain, parce qu'elle voulait des enfants, moi aussi. Bon, c'est pas, mais c'est pas compliqué. Je veux dire.
Vous parliez d'avoir des enfants.
Je ne fais pas une affaire politique de ça. Mais mes enfants, ils ne sont pas mariés, ils ont des enfants.
Oui, mais si demain, deux hommes décident de se marier,
demain, ils divorceront. C'est rien, moi. Je ne me pose pas autant de questions que ça, j'essaie d'être simple. Mais
il faudrait peut-être se poser des questions avant d'aller à un débat, parce que...
Non, mais on sent bien quand même que... On est d'accord, vous êtes d'accord pour que on règle le problème que, sur le niveau du mariage, on a avancé ce soir grâce à vous. On sait que l'UMP, ils vont voter la loi pour le mariage...
C'est une position qui est personnelle, je n'ai pas dit que c'était la position de l'UMP, j'ai dit qu'il y avait liberté de conscience au sein de l'UMP.
Un représentant de l'UMP est d'accord pour que son député vote la loi sur le...
Il agira en conscience, c'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit voter.
Voilà. Il semble l'avoir aperçu sur les tribunes du Champ de Mars le 13 janvier.
Voilà. Donc, mais ça rejoint bien, c'est bien. On passionne le débat, c'est volontaire, c'est politique, et je le comprends en plus. Moi, je ne suis pas gêné par le fait que ce soit un débat politique, et porté comme il est porté. Après, on voit bien qu'on est capable, ici autour de cette table, puisqu'on est... On ne représente pas... la droite et la gauche, hein, ni à tous. On est d'accord, nous, ici, de dire, au milieu, mais tous, de l'extrême gauche, alors.
On va passer la parole au nouveau centre, mais continuez, monsieur.
Je laisse. Il n'a pas beaucoup parlé, je vais lui laisser la parole.
Non, j'ai dit le nouveau centre, donc c'est pas le MoDem. Non, ne confondez pas les centres, ouais, monsieur Messier.
Non,
j'ai déjà dit un petit peu ce que j'étais contre la procréation médicalement assistée, donc j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus.
Alors on va peut-être se pencher sur les 5000 amendements. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Moi, avant tout, j'aimerais peut-être me pencher aussi une petite seconde sur le fait que, vous lisiez, la proposition 31 de François Hollande était le mariage donc pour tous, ou mariage homosexuel, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Par contre, si j'ai bonne mémoire, lors du congrès des maires, il a annoncé que les maires auraient une liberté de conscience pour marier les homosexuels ou ne pas les marier. Donc il est revenu ensuite, parce que bon, la cacophonie et le flou, c'est une caractéristique de François Hollande, mais on voit bien que sur ce point-là, en tout cas, il a fait un début de renoncement. Jusqu'où est-ce qu'il ira, je sais pas, mais bon.
Non, ce n'est pas du tout un renoncement. Donc la loi, quand elle sera votée, elle sera appliquée.
De dire qu'une loi sera appliquée, mais que le maire aura la possibilité de ne pas l'appliquer, c'est finalement ne pas l'appliquer.
Mais raison de plus pour
que... Ça ne serait pas légal, alors.
Quand en République, les lois s'appliquent. Oui, donc c'est la liberté de conscience des maires, en ce cas-là.
Ça, c'est un faux argument. Voilà.
N'a aucune raison d'être.
C'était en tout cas
un faux argument, parce que le maire qui ne voudra pas marier des homosexuels, il confiera ça à un adjoint, et puis voilà.
Non, mais de par
la discrimination,
de par la République...
C'est la loi doit être appliquée. Le premier magistrat d'une commune, il doit faire appliquer la loi.
Il faudrait qu'à ce moment-là, n'importe tous les administrés, tous les adjoints de la mairie refusent de faire le
mariage. Et si ce cas arrivait? Il faut tout envisager quand on est
juge. Vous les mettez au tribunal à ce moment-là.
Oui, voilà. Tout à fait. Oui, de la République.
On se rappelle de Noël, ma mère, qui a voulu célébrer un mariage homosexuel. Il s'est fait suspendre par le gouvernement de ses fonctions, par sanction. Et ça sera la même façon de sanctionner des officiers d'état civil, en l'occurrence, puisqu'ils représentent l'État dans ce cadre-là, de les sanctionner pour non-exécution de la loi. À partir du moment où les conditions légales du mariage sont remplies, il n'y a aucune raison de ne pas l'effectuer. La liberté de conscience, ça voudrait dire à la sortie qu'on pourrait renoncer à toutes les lois adoptées dans le cadre de la représentation nationale.
Moi, je veux bien
la République.
Et c'est les propos de François Hollande.
Je suis d'accord. C'était un moment où nous avons été tendus de voir peut-être, qu'on pouvait effectivement accorder cette possibilité à ce qu'on n'applique pas la loi dans le cadre républicain.
Si
on prenait les propos d'égarement des différents présidents de la République, celui d'avant était pas mal, hein, quand même.
Vous pouvez nous le rappeler.
Alors, une des questions, vous l'avez évoquée en trouvant que c'était une motivation non seulement légitime, mais utile, c'est l'adoption des enfants déjà nés et venant d'un conjoint. Alors, il y a les couples de lesbiennes avec des dames qui ont déjà un enfant. Il arrive qu'il y ait des couples homosexuels masculins dont un des conjoints aura déjà un enfant. Mais ça veut dire que cet enfant... Alors, quelles seront les conditions d'adoptabilité, de parentalité du nouveau conjoint sur cet enfant qui a une mère, alors à moins qu'elle soit disparue. Mais...
Quelle différence avec un beau-père ?
Oui, avec un parâtre.
Mais aujourd'hui, excusez-moi, l'adoption existe, puisqu'un célibataire peut adopter, qu'il soit homme ou femme. Il peut adopter. La seule chose qui se passe, c'est que dans le couple de personnes de même sexe, le second n'a pas le droit d'adopter. Même à la limite, s'il y avait des concubins, la concubine ne peut pas adopter l'enfant de son concubin comme ça, puisqu'il a un père. La seule chose, si j'ai l'impression, c'est que la loi, enfin, nous, c'est ce que nous souhaitons qu'il se passe, c'est que les deux parents aient les mêmes droits et devoirs vis-à-vis de l'enfant, et que l'enfant ait également la possibilité, en cas d'accident de la vie, d'avoir le second qui va être légitimement son père ou sa mère.
C'est-à-dire que certains enfants auront trois parents.
Non, mais excusez-moi, un adopté, il ne connaît pas forcément ses autres parents.
Oui.
Il connaît deux ceux avec lesquels il vit, c'est sûr. Quelquefois, il peut connaître le géniteur, les parents biologiques, quelquefois, il ne les connaît pas. Moi, nous avons dans la famille des enfants adoptés qui ne connaissent pas leurs parents biologiques. Ils connaissent leurs parents éducateurs.
Tout à fait. Ma question, je reconnais qu'elle n'est pas non plus très... Quoique, un monsieur était marié, il a eu des enfants, oui. Il épouse un autre homme. C'est pas inutile que son nouveau conjoint ait une certaine autorité sur l'enfant. Et en même temps, la mère de l'enfant... pas forcément le... Enfin, je sais pas. Je pose la question de savoir comment peut se résoudre ce genre de... Monsieur Vaureau.
Mais sur un plan éthique, moi, je ne vois pas trop de différence. C'est un enfant qui aura plusieurs parents, tout simplement. C'est une multiplication à l'échelle exponentielle de l'amour, hein, simplement, de cet enfant, puisque on élève un enfant pour lui assurer une éducation, pour lui...
Légalement, la question ne se pose pas. Il a un père avec lequel il vit, par exemple, puisque la garde a été donnée au père. Il a une mère. Il n'a pas besoin d'avoir un autre parent. Mmh. L'autre va être un copain, un parrain, en plus. Mais en cas d'accident de son père, il a toujours sa mère. Alors, effectivement, ce qu'on peut se poser comme question, c'est le père a eu la garde en bas âge, ou la mère, par exemple, et qu'il a vécu plus avec le nouveau conjoint ou la conjointe du parent avec lequel il vit, par rapport aux parents biologiques. Là, on peut se poser la question, effectivement, j'ai passé 20 ans avec l'un, le parent avec lequel je vivais va mourir, c'est mon second parent biologique avec lequel j'ai jamais été, qui aura plus de droits que celui avec lequel je suis. Là, effectivement, mais...
Monsieur Rossoy nous disait, c'est une recomposition.
C'est là où... On se retrouve dans le même cas que ceux qui ont des beaux-pères ou des belles-mères.
C'est là où intervient, peut-être, dans notre réflexion, le fait que... Que deviennent ces enfants, là. Parce que quand moi, je vous écoute, tout ce business-là, le parent, le machin, etc., etc., le môme là-dedans, qui dit où c'est que je suis, mais... Pas plus que dans les familles recomposées, etc. Je veux dire, pas plus. C'est pareil. Ma belle-mère.
Je trouve qu'on se concentre pas assez sur l'intérêt de l'enfant et sur le fait que les enfants en bas âge, on sait très bien comment ça fonctionne et il sera rapidement mis à l'écart.
Oui, mais c'est pareil aujourd'hui, je veux dire, dans les couples qui divorcent, etc. Le môme qui a 5 ans, là, il se retrouve.
Oui, mais l'enfant, il a un père et une mère, il sait qu'il est issu de ses deux parents.
Mais là aussi,
il
n'a
pas un père et un père
aussi.
D'eux.
Oui, mais là, ça peut marcher aussi.
Mais le problème, c'est que ça peut peut-être marcher, mais on n'a aucun recul, on n'a fait aucune étude, on est en train de nous pondre un texte de loi, alors qu'on n'a aucune
étude. Je suis pas d'accord.
Voilà. On a des exemples d'endroits où l'adoption est acceptée pour les couples homosexuels. Je peux vous citer l'exemple de l'Espagne, de la Belgique, du Pays-Bas, du Danemark, du Royaume-Uni
et
de la Norvège. Donc,
on a
des reculs. Hein,
on n'a pas le recul de la France.
Il y a des études sociologiques par rapport à ces enfants de ces pays. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu du tout, pour l'instant, de situation négative par rapport
à ça. Et c'est tant mieux s'il n'y a pas eu de problème. Mais comme je vous expliquais, chaque pays a sa culture et ses mentalités, et on ne peut pas transposer la culture de...
Mais le problème avec la droite, c'est que, c'est vrai qu'on on met en avant la culture. Si on vous a simplement laissé faire les choses, les avancées sociaux, il n'y en aura jamais, tout simplement. Je peux comprendre qu'il y ait une culture, mais je pense que c'est aussi, heureusement que le parti de gauche et que la gauche va dans ce sens. Il y a des moments où il faut qu'il y ait des avancées.
Donc vous estimez que dans la Ve République, il n'y a pas eu d'avancées, alors que la plupart de la Ve République était sous des présidents de droite.
Non, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est une question de droit et d'égalité de droit. Voilà. Si on rentre des éléments culturels, on ne s'en sort pas dans cette question-là. Mmh. D'ailleurs, on a une avancée sociétale en France qui font que maintenant, désormais, en France, visiblement, on accepte davantage définitivement de tourner la page de l'inégalité par rapport au couple homosexuel. Ce n'est pas un problème de culture. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de migrants en France qui, et que ce ne serait pas leur pratique. Peu importe, la loi de la République, c'est la loi de la République. Mmh. Cette avancée-là, elle doit se faire. Elle doit se faire pour justement respecter une égalité de droit. Moi, je ne suis pas d'accord sur le qu'on évoque des phénomènes culturels là-dessus. Je pense que d'ailleurs, des situations de fait, il y en a, puisqu'on évoque entre 30 000 et 200 000 enfants qui sont dans des familles homoparentales. Ça dépend si on prend les chiffres de l'INED ou celles des associations. Il faut aussi dénoncer le fait qu'en France, les gouvernements, hein, quels qu'ils soient, se sont toujours refusés, notamment en termes de recherche scientifique, de mettre des fonds sur ces questions-là. Et en même temps, on voit bien aujourd'hui les enfants issus de ces familles homoparentales dans la situation où ils sont. Il n'y a jamais eu de perturbation, de problème. Donc c'est pas un problème de culture. Donc dans ces questions-là, je crois qu'il est temps définitivement de légiférer pour trancher et donner des statuts et des libertés. Point barre.
Alors, votre consensualité, on parlait de la parentalité, là c'est la consensualité relative autour de la table à propos, nous a laissé un peu de temps, et je voudrais savoir si, à l'occasion de cette loi, qui d'une certaine manière est aussi sur la famille, c'est sur le mariage, il y a d'autres inquiétudes qui se sont fait jour, à savoir des ouvertures, des égalisations, après tout, entre les enfants naturels et les enfants légitimes, et également une disparition du chef de famille qui disparaîtrait du code civil. Est-ce que vous avez
bougé ça, mes autres? Non, mais je crois que depuis 1970, quand il a été question de définitivement permettre le divorce par la femme d'enclencher le divorce, vous savez qu'on a toileté le code civil et que la notion de chef de famille a disparu de fait. Hein, la notion du père, enfin du patriarcat. Donc ce n'est plus, ça n'a plus voix dans notre droit depuis.
Ça restait sur la fixation du domicile. Mais enfin, si on n'est pas d'accord sur la fixation du domicile, je crains qu'on soit plus d'accord sur grand chose.
Quand vous faisiez allusion tout à l'heure à la réflexion que j'ai faite sur les cultures, enfin des gens venant de cultures différentes, c'est pas pour vanter le fait que, pour nier le fait que les lois de la République s'imposent. Mais indépendamment des lois de la République, il y a au fond de chacun de nous un acquis culturel et que l'homme politique est là pour faire le vivre ensemble, si vous voulez. Si vous mettez des gens en opposition parce que l'un a une culture, par exemple, pour les Juifs, le mariage se fait devant Dieu. Et le rabbin Bernheim, qui a été sans doute, de toutes les confessions qui sont venues parler du sujet, l'homme le plus doux, disons, celui qui a donné le plus mesuré. Mais pour lui, il est irrémédiablement contre la possibilité de ça. Il faut comprendre, si on ne comprend pas les Juifs, si on ne comprend pas les musulmans, si on ne comprend pas des gens venant d'autres nations, ça pose un problème parce qu'on veut les intégrer, ces gens-là.
Donc on peut faire la théologie, mais c'est la question, on parle du mariage civil.
Je pense que là, on parle du mariage civil et de la laïcité. Oui. Complètement séparer les deux choses. Là. C'est peut-être là où d'accord, je ne suis pas d'accord, monsieur.
Non, mais ce que je veux dire, c'est pas du tout pour défendre les cléricaux. Il faut dire simplement qu'il y a une appréhension. Les gens âgés, par exemple, comprennent beaucoup moins la loi sur l'homosexualité que les jeunes. Pour les jeunes, ça passe tout seul. À l'âge de Martin, il n'y a pas de problème. Chez lui, il y a 90% qui vont être pour. Et si vous allez chez les gens âgés, il y a 90% qui seront contre. Il faut tenir compte de... C'est-à-dire, il faut leur imposer quelque chose. Mais il faut respecter leur système de pensée.
Je pense que les sondages... Les sondages ont toujours, depuis 10 ans, marqué la volonté des Français. Donc c'est une tendance lourde. Hein, je ne prends pas un sondage en particulier pour cette avancée. En France, même l'Église catholique romaine, c'est à partir de 1215, avec le Concile de Latran, qu'elle commence à s'emparer de la question du mariage, qui existait déjà dans un cadre privé. 164. Concile de Latran, 1215.
Non, c'était le...
il y a quelques années.
En plus, c'est pour vous dire
qu'on célébrait des mariages religieux.
Quand l'institution religieuse catholique s'empare de la chose, c'est déjà une pratique privée. Donc, vous voyez bien que.
Oui, mais ça, c'est ce que je disais au début. Il faut séparer le mariage religieux du mariage civil. Le mariage civil, c'est
on n'a pas légiféré,
ni plus ni moins qu'un acte administratif, si on peut dire. À la limite, si on peut le considérer comme un acte administratif. D'ailleurs, moi, je pratique souvent des mariages des fois en hiver, notamment en fin d'année, qui n'ont d'autre but que de payer moins d'impôts. Il faut être clair quand même. Je pense que la notion d'amour se voit plus dans le mariage civil, qu'il soit juif, musulman, religieux, quel que soit le mariage. Mais c'est pour ça que nous, la laïcité, à mon avis, s'applique exactement dans ce cas-là. Le mariage républicain, et je le considère plutôt comme administratif, si on peut dire, régularisation et ouvrant des droits, ça c'est une chose. Et après il y a le parti
quelques devoirs quand même.
Et quelques devoirs, bien sûr. Et après il y a, oui, parce que d'ailleurs on cite quelques articles qui impliquent quelques devoirs, même pour emprunter acheter un lave-vaisselle par exemple. Donc c'est un peu idiot. Et puis franchement, il faut séparer les deux. Et puis moi je voudrais surtout que le mariage, qu'il soit civil et républicain, soit l'union de deux personnes qui s'aiment. Je vois pourquoi on va ghettoiser les homosexuels d'un côté et les pas homosexuels de l'autre côté.
Tout à fait.
Franchement, je vois pas pourquoi on va faire des ghettos d'un côté ou de l'autre.
Personne ne parle de ghetto.
Oui, personne.
Oh, c'est non, mais c'est dans la pratique, c'est un ghetto.
Oui, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, peut-être, là, c'est pas mal. Oui.
Non, 5 000 amendements et on n'a pas eu encore la couleur d'un de la part de l'UMP.
Mais on n'a plus le temps, là, maintenant.
Je sais bien.
3 minutes, s'il nous passe 5 000 amendements, là.
Monsieur Mehdi, il a fait esprit de ne pas en donner.
La polygamie dans des amendements posés par l'extrême droite, les représentants de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. On a tout.
Ils sont pour ou.
Oui, monsieur Jacques Bompard, apparenté, a fait une 34 amendements et il va jusqu'au bout du raisonnement, on l'ouvre à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit les sexes, quel que soit. Enfin,
tout, ça s'appelle le mariage pour tous, après tout, non ?
Oui, ben voilà, c'est exactement le cynisme de monsieur Jacques Bompard que semble partager l'UMP ce soir.
Célibataire, après tout, il y a des EURL, il pourrait bien y avoir des mariages à monoconjoints.
Oui, c'est du cynisme, bien sûr.
Bien, mais je pense qu'on a fait le tour de la question plus rapidement que je ne pensais, parce que je crois ne pas vous trahir en disant que les représentants, je vais les rappeler, Christian Emmanuel Gros pour le Modem, Daniel Rozoy pour le Parti Radical de Gauche, Jean-Albert Bessière pour le Parti Communiste, Jean-François Théron pour le Nouveau Centre, Jean-Louis Roussel pour le Parti de Gauche, Mehdi Smaïn pour l'Union pour un Mouvement Populaire et Martin Voreau pour le Parti Socialiste, n'ont pas de grosses oppositions au projet de mariage homosexuel.
Alors, la question de droit et de l'égalité de droit, c'est difficile.
Ben, c'est moi qui ai le dernier mot, quand même, normalement. Monsieur Roussel. Donc, c'était Claude Devezin, avec tous ceux que je viens de nommer, et il y aura un prochain tableau ovale sans ellipse, dans un mois, cette fois à Villefranche-de-Rouergue.
Merci.